Merci de cet accueil. Je suis émue, en fait, parce que j'ai été accueillie dès cet après-midi. Donc, bonsoir à tous. Je remercie beaucoup Nicolas de Mondeville, qui dirige avec conviction et humanité sa villa du Chêne d'Or Bonchamp-lès-Laval du groupe Corian. Et je remercie la librairie Corneille de m'avoir choisie comme marraine. C'est très émouvant d'être choisie comme marraine d'un projet militant, parce qu'on regarde ensemble dans la même direction. Bon, je suis vraiment sensible à la façon dont vous m'avez présenté, évidemment. Mais c'est partager avec vous quelque chose aujourd'hui, et j'espère vraiment que ça va être une rencontre plus qu'une conférence. J'ai intitulé cette rencontre « Vieillir, c'est grandir ». Les enjeux du bien vieillir au 21e siècle. Alors, dans une première partie, je vais me présenter à vous, mais enfin, ça a déjà été largement fait. Et puis, ça permet de voir, c'est toujours bien à partir de quoi on parle. Et puis ensuite, je vais aborder les enjeux du bien vieillir au 21e siècle. Alors, d'abord, je vous le demande, qu'est-ce que vieillir et à quel âge est-on vieux? Aujourd'hui, quelle place la société donne-t-elle à ses vieux? Qu'on désigne par le mot « senior ». Ah, on ne dit pas « vieux », « vieux », ça fait désordre. C'est presque comme une insulte, alors on dit les jeunes seniors à partir de 45 ans. Et comme on vit de plus en plus longtemps, on est des seniors. D'ailleurs, cet après-midi, même une jeune femme, dans ma rencontre avec les soignants, qui fut passionnante, car au groupe Corian, Laval, Bonchamp, j'ai eu la chance de rencontrer les soignants et des soignants de la région très investis, c'était très intéressant. Il y a une dame qui est venue me voir après et qui m'a dit « mais vous dites les vieux quand même, ça me choque un peu ». Déjà, Monsieur Sarkozy, disait-elle, a dit à la télévision « les vieux, ça m'a choqué quand même, hein, les vieux ». Je lui ai dit « écoutez, on dit bien les jeunes, pourquoi on dirait pas les vieux ? Pour moi, les vieux, c'est noble, ça prouve qu'on a déjà vécu longtemps ». Mais quand même, ça faisait discussion. Voilà. Alors, quels sont ces enjeux du bien vieillir dans une société en pleine mutation civilisationnelle, j'en dirais quelques mots, en pleine crise du sens, je tenterai de la décrypter, en pleine transition démographique et transformation numérique, vous vous en êtes bien aperçu. On décryptera le sens du mot bien vieillir, qui est souvent assimilé à une sorte d'injonction que l'un de vous a cité du vieillir jeune, un compromis normatif qui flirte dangereusement avec le fait qu'il ne faut pas faire son âge. On donne peu de pistes pour vieillir en accordage, on se rive sur l'apparence. Et puis enfin, je vous proposerai quelques pistes pour sortir des ornières qui empêchent une avancée en âge harmonieuse. Et des ornières, il y en a quand même, hein. Il ne faut pas que ça soit non plus tout rose, il ne faut pas éluder les obstacles si on veut vraiment grandir en avançant en âge. Alors, bon, on a dit que j'étais psychanalyste, moi je dis que c'est un métier à tisser des liens, que j'exerce donc depuis 25 ans en cabinet privé, et je suis membre de la Société de psychanalyse freudienne où j'anime un séminaire mensuel depuis à peu près 10 ans sur la clinique analytique aux âges clés de la vie. Alors pourquoi les âges clés, me direz-vous? Ce sont des périodes de la vie dans lesquelles on entre, symboliques, qui marquent une étape, et je pense qu'en effet il y a des portes qui s'ouvrent, donc c'est pour ça qu'il y a des clés, qui nous donne l'occasion de piocher de nouvelles cartes pour changer la donne et qui nous donne également l'occasion de vivre des turbulences latentes en temps normal. Alors, une partie de ma patientèle, ce sont les futures mamans. Les femmes qui, au moment de franchir cette étape d'un heureux événement, puisque donner la vie, c'est quand même un heureux événement, et pourtant, elles sont, je dirais, leur identité vacille. Elles sont parfois prises d'angoisse, elles sont dans une dynamique psychique particulière, remuées dans leur corps, elles ont peur de perdre leur marque, leur corps d'avant, leur vie d'avant, leur couple. Elles inscrivent ce bébé dans l'ordre des vivants, mais dans l'ordre des mortels. Elles sont, autrement dit, dans une certaine crise existentielle. Et comme on ne nous permet pas aujourd'hui d'exprimer trop tout ça, sauf dans les services où on est bien accueilli, où on n'hyper-médicalise pas la chose, elles sont contentes parfois de pouvoir poser leurs valises et de dire, ce qui n'est pas si simple, les angoisses dans lesquelles elles sont prises et de s'en délivrer pour donner la vie à cet enfant. Et je reçois aussi les futurs papas. Et sans qu'ils portent sur les épaules toute cette histoire des générations qui ressurgit dans cette étape clé. Parfois, la crise existentielle se bloque et elles sont prises dans un symptôme que j'ai appelé la stérilité garde-fou. Garde-fou parce que parfois il faut la respecter, ce temps d'infertilité énigmatique. C'est un temps qu'elle se donne, elle se pose, parce qu'elle sent, certaines femmes, que si elles continuaient l'aventure, c'est-à-dire si elles devenaient mères, leur identité vacillerait beaucoup. Donc il y a un temps pour faire redémarrer cette crise intégrative, cette crise du développement de leur vie. Et puis parfois, elles ont recours à l'assistance médicale, à la procréation, qui est un sacré parcours du combattant, qui aide beaucoup de parents. Je ne suis ni pour ni contre. Il ne faut jamais, à mon sens, être pour ou contre une approche ou une méthode. Chaque cas, et ça a été dit tout à l'heure, est singulier. Et je les accompagne pour s'approprier ce protocole. Donc, cette expérience de la clinique de la périnatalité, elle m'a beaucoup appris. Elle m'a appris d'abord qu'on ne pouvait pas travailler seul, qu'il fallait travailler en pluridisciplinarité, en réseau, autrement dit, en ayant un carnet d'adresses selon les régions, connaître la bonne sage-femme, les bonnes équipes. Et elle m'a surtout appris qu'il y avait un lien à faire entre le bien-être et le bien-être, qui s'orthographient différemment mais s'entendent pareil dans la langue française, et entre le bien-être et le bien vieillir. C'est-à-dire que tout ce qui se tisse dès l'aube de la vie, dès la vie affective prénatale et dès les premiers temps, va étonnamment ressortir dans les étapes clés de la vie, notamment en vieillissant, en grande vieillesse, voire en fin de vie, où les bébés perdus qu'on n'a pas eu, qu'on aurait pu avoir, qu'on a perdu dans différentes circonstances, IVG, fausse couche, deuil périnatal parfois. C'est là que ces bébés ressurgissent. Alors, je reçois aussi des hommes et des femmes avec des problèmes existentiels plus ou moins lourds, et puis des personnes adultes entre 65 et 90 ans, car pour moi, quand on vieillit et qu'on devient très vieux, on ne perd pas pour autant son statut d'adulte. Donc j'ai cette expérience de la clinique du sujet âgé, de personnes qui viennent parfois faire une escale chez un psychanalyste que je suis et qui viennent parfois me trouver là comme un tuteur de résilience pour repartir en ayant déposé une valise parfois bien lourde et un parcours de vie. C'est à travers ce que m'ont appris mes analysants de tous les âges et bien sûr ma propre expérience de vie. J'ai été moi-même élevée les premières années de ma vie par mes grands-parents maternels, mais aussi par mes parents ensuite. Ça marque, évidemment. J'ai un époux que j'admire, qui est psychanalyste et qui a 81 ans. Donc, c'est important que je le dise, parce que d'abord, quand il prend la parole en public, en tant qu'écrivain psychanalyste, il parle aussi de sa place de vieux, sans tabou. Et c'est sacrément une leçon de vie au quotidien. Alors, ce parcours, il m'a appris une chose, c'est que découper une personne en tranches d'âge n'a vraiment pas de sens. Il est préférable de la considérer, au sens propre et au sens figuré d'ailleurs, dans son parcours de vie. Alors comme vous le disiez tout à l'heure, j'écoute l'enfant dans l'adulte, c'est vrai. J'écoute aussi l'adulte avec son âge d'état civil, et je me dis, comme Victor Hugo le disait si bien, qu'à partir de 80 ans, cet adulte, bah, il a tous les âges à la fois. Et aussi une chose, c'est qu'on n'est pas adulte une fois pour toutes. On ne cesse de faire des va-et-vient, des retours en arrière, des récapitulations, des régressions. Et parfois, avant de faire une progression, on fait 3 pas en arrière avant de faire un grand bond en avant. Il suffit d'un coup dur. On se met à avoir 4 ans, être démuni, vulnérable. Un événement heureux parfois. J'ai remarqué que la réalisation d'un désir, le mariage, quand on est primé, quand on palpe enfin ce qu'on désirait depuis des années, parfois, c'est tellement une capacité de contenance qui est mise à l'épreuve, l'identité vacille, et là, parfois, on régresse. On aurait envie de se mettre sous une couette, d'être bien bordé, tout petit, presque de sucer son pouce. On n'ose pas quand même, on est adulte, ça ne se fait pas. On ressort son nounours, mais on ne le dit à personne, et puis on fait un grand bond en avant. Alors, je fais en tout cas toujours le pari du sujet, et ça, c'est important. Sujet avec un S majuscule, du sujet en devenir, de l'aube au crépuscule de sa vie. Et même dans la dépendance, ce mot qui fait peur à tout le monde, il y en a qui ne veulent même pas le prononcer, ils disent « Oh, faut pas dire dépendance, faut dire perte d'autonomie », élément du langage. Moi, je trouve qu'on est tous dépendants les uns des autres et qu'il faut la dédiaboliser, cette dépendance. Et que même quand on est dépendant, on doit pouvoir rester un sujet en devenir. Et même avec des troubles cognitifs et même en fin de vie. Et la période de la fin de vie, la clinique de la fin de vie, c'est une vraie clinique. passionnante, émouvante, où il est encore possible de grandir, même si c'est parfois extrêmement émouvant, et puis parfois pathétique et tragique, bien sûr. Tant qu'une personne est vivante, l'enjeu, c'est qu'elle reste un sujet en devenir. Comme disait Françoise Dolto, en allant, devenant. Vous voyez le mouvement ? Et le pédiatre psychanalyste Winnicott disait « going and being ». On sent le prétérit en anglais, cette notion de devenir. Alors c'est ce message-là, avant tout, que je vais essayer de faire passer ce soir, ce message d'allant-devenant, de l'aube au crépuscule. J'ai constaté qu'on n'évoluait pas de manière linéaire, mais par étapes, de métamorphose en renaissance successive, de désorganisation en réorganisation. En fait, on avance par poussées successives, comme ça, à des âges clés ou à des événements clés, et on passe par des temps forts dans notre vie. C'est René Caës qui dit « C'est par la crise que l'homme se crée homme et son histoire transite entre rupture et suture, entre crise et résolution. » Rupture et suture, on sent le point de broderie là, le métier à tisser, on suture et puis on entre en crise et ça se résout et on continue. Alors au fond, la naissance à la vie, elle précède la naissance au monde. Simplement, on est au monde une seule fois. Et on ne cesse de renaître dans une suite de renaissances jusqu'au terme de notre vie. Et la dernière, le dernier passage, je pense qu'il est proche de l'accomplissement si toutefois il n'est pas occulté. Or, on aura sans doute l'occasion d'en parler si vous me posez des questions tout à l'heure sur ce que ça voudrait dire que de ne pas occulter le dernier passage. De penser que la mort est dans la vie et de penser qu'en fin de vie, il y a un vrai accompagnement de la fin de vie jusqu'au bout et que comme Winnicott avait émis le vœu, et il a été exaucé, on peut entrer vivant dans la mort. Il est mort en regardant un film comique à côté de sa femme, ce Winnicott. Alors nous cheminons ainsi, depuis notre naissance, à chaque étape clé de notre petite et grande enfance, à notre adolescence et la naissance d'un homme ou d'une femme, lors de notre parentalité naissante, pour ceux qui ont des enfants, parce qu'il y en a qui n'ont pas de bébé en chair, ils ont des bébés symboliques, des œuvres, des choses qu'ils appellent leur bébé, ou ils subliment dans d'autres activités. Enfin, pour ceux qui deviennent parents, il y a la maternalité, la naissance d'une mère pour les femmes, la paternalité pour les hommes, au milieu de notre vie. C'est Claudine Attias-Donfu, sociologue des générations, elle dit c'est la maturescence, sorte d'adolescence à l'envers, traversée par un événement clé pour les femmes, la ménopause, et un peu en décalé pour les hommes, l'andropause. Seuls les endocrinologues en parlent, les psychanalystes peu. Moi, je regarde beaucoup l'andropause psychologique des hommes pourtant. Je les écoute traverser cette étape. Et lors de notre sénescence, à partir de 65 ans jusqu'à notre mort comprise, eh bien, la sénescence, on peut encore continuer de grandir. On peut d'ailleurs l'écrire en deux mots, comme le dit joliment la psychologue Danielle Rapoport, c'est naissance. Eh bien, voyez, tout au long de notre vie, notre identité ne cesse de se sculpter comme une pâte à modeler, de se remanier. Elle s'érode au fil du temps et on devient intéressant avec les marques du temps au bout d'un certain temps. Chacune de ces étapes sont des étapes de notre développement. Elles correspondent à des points forts, pour employer une dénomination du pédiatre américain que vous devez bien connaître. En librairie Corneille, je suis sûre que vous avez tous ces livres. J'ai nommé Brazelton, ce grand Brazelton. Il désigne par points forts les étapes du développement de l'enfant, Brazelton. Le sevrage, la propreté, la parole, la marche. Pour lui, ce sont des points forts où l'enfant fait trois pas en arrière, tous des règles. Les parents se disent « qu'est-ce que j'ai mal fait ?» avant de faire un grand bond en avant. Eh bien, moi, je travaille sur les points forts de la vie adulte. Alors, il y a, à mon avis, donc les 1, 2, 3, 4 points forts, adolescence, parentalité naissante, maturescence et sénescence. Dans le meilleur des cas, il ne faut pas plaquer ça comme une théorie, bien sûr. On peut très bien ne pas faire de crise existentielle d'adolescence, elle va être silencieuse. Et puis, c'est en devenant parent au deuxième enfant ou au troisième ou pas. Enfin, il n'y a pas de règle générale, comme vous le disiez, chacun est très différent. Mais enfin, quand même, on peut dire que les quatre grands points forts de notre vie d'adulte articulent le tableau et que des émotions, des turbulences émotionnelles qui sont quand même latentes en temps normal, c'est là que la dynamique psychique est, je dirais, particulière et c'est là qu'il est urgent et important de pouvoir rencontrer un psychanalyste. Vous avez une dynamique psychique particulière en temps de sénescence qu'on retrouve avec les autres étapes, avec retour du refoulé, déferlement pulsionnel, levée des inhibitions, et beaucoup de matériel qui se livre dans les comportements, les lapsus, les rêves, les actes manqués. L'inconscient est presque transparent, et c'est un moment d'ébullition fabuleux pour grandir. Alors c'est sur ces crises, normales à éprouver, parfois violentes, que portent mes ouvrages que vous avez cités, sur ces crises qui ne sont pas pathologiques à condition qu'on les laisse s'exprimer, c'est-à-dire qu'elles ne soient pas muselées par une hyper-médicalisation incisive ou qu'elles ne soient pas déniées et qu'on puisse trouver un environnement, je dirais, stable et bienveillant pour les accompagner, parce qu'elles peuvent quand même déraper dans la pathologie. On peut quand même se mettre à s'effondrer dans la psychose, voire à somatiser, si la crise existentielle est trop violente, et si on n'a pas un interlocuteur psychanalyste ou auxiliaire de vie, ou soignant, ou établissement, ou quelqu'un, ou médecin traitant, tout simplement, généraliste, qui se dit « l'identité de cette personne vacille, il faudrait peut-être l'envoyer à quelqu'un » et tout de suite se tisse un réseau protecteur autour de cette personne. Donc mon premier bébé en papier, c'était le mystère des mères, parce que je traitais de cette naissance des parents. La femme en crise, c'est quand j'ai eu moi-même ma ménopause, et puis comme mes ouvrages suivent ma vie, la vie à l'épreuve du temps, c'est quand j'ai déroulé le ruban de la vie, la clinique du sujet âgé. Depuis 1999, j'organise donc des colloques pluridisciplinaires qui sont tous publiés en ouvrages collectifs et donc je tire ce fil rouge du bien-être et du bien vieillir. Et le dernier en date, eh bien, c'était La cause des aînés, 3e édition, c'est comme les feuilletons, 3e saison. Hein. C'était Vivre ensemble, jeunes et vieux, aujourd'hui et demain, et ça paraît donc en octobre, Vivre ensemble, jeunes et vieux, un défi à relever. Alors, à partir de quand est-on vieux? Vous avez eu le temps de réfléchir? Nous ne sommes pas tous vieux au même âge. Vieillir, ce n'est pas une maladie, mais c'est un processus d'évolution qui démarre dès notre naissance sans qu'on y fasse attention. Et c'est un long processus de transformation qui nous permet de progresser humainement, de grandir à l'intérieur de nous au fil du temps, mais c'est aussi l'effet du temps sur notre organisme et sur notre psychisme. Il y a une vieillesse à plusieurs vitesses, à plusieurs visages. On n'est pas tous égaux devant l'avancée en âge. Alors, selon notre bagage génétique, notre histoire, la sécurité affective emmagasinée lors des premières années de la vie, ça c'est très important, le contexte de notre vie actuelle, le regard de la société, qui est évidemment pas tellement bienveillant pour les vieux, on va le voir tout à l'heure, nos moyens financiers. Je pense qu'il faut quand même des sous pour bien vieillir. Quand on voit le tarif des établissements, quand on voit tout ce que ça coûte et quand on voit ce que les gens ont dans leur retraite, ils ont quand même intérêt à avoir des sous. Surtout au moment où ils ont travaillé, ils ont pédalé toute leur vie, c'est maintenant qu'ils voudraient profiter. Puis parfois, le train de vie se rétrécit. Tous ces éléments nous touchent plus ou moins et peuvent nous ébranler douloureusement. Au milieu de notre vie, vers 50 ans, il y a un premier grand changement de rapport au corps et au temps qui ne va faire que s'accentuer. Et les hommes et les femmes sont touchés différemment dans cette étape-là. Le paradoxe, nous dit Elliot Jack, qui est un psychologue canadien, c'est que l'entrée dans la fleur de la vie, dans l'étape de l'accomplissement, marque le début de la fin. La mort en est le terme. C'est vrai qu'on savait qu'on était mortel à partir de 50 ans, quand les pertes commencent à peser un peu plus lourd que les gains. Cette fois, on le sent. Alors, j'ai travaillé sur la ménopause, qui est quand même pour les femmes une perte des acquis reçus à la puberté. On ne peut plus faire de bébé. Le petit calendrier intime se déchire, sur lequel on marquait tous ces événements de la vie intime et sexuelle qui nous relient intimement à notre corps. La date des règles, on le marque. Une femme, elle a dans son sac à main un petit carnet secret avec des codes, les règles, la date des ovulations, des grossesses, des naissances, des retours de couches, des allaitements, les sevrages. IVG, rendez-vous chez le gynéco, fausse couche, parfois des événements durs, mort périnatale. Tiens, protocole d'AMP, c'est maintenant. Ah oui, stimulation ovarienne, tout ça. Eh bien, tout d'un coup, il y a 40 ans de la vie qui s'envolent comme un lâcher de ballon. Des premières aux dernières règles, j'ai calculé, ça fait à peu près 40 ans. Deuil de soi, qui ramène les deuils anciens, y compris ceux qui n'ont pas été vécus en leur temps. Et puis, ça se passe bien pour 15% des femmes, la ménopause, comme une lettre à la poste. Pour les autres, c'est un sacré séisme quand même, avec des bouffées de chaleur, l'impression que la féminité va fondre au soleil, et puis aussi une certaine fluctuation libidinale. Parfois c'est « aurais-je le temps de tout faire ? Quel sens à ma vie ? Où en était ma mère au même âge ?» On a très envie de tout faire, de faire l'amour beaucoup, une oralité exacerbée, puis parfois on ne peut pas parce que le couple est en berne, notre mari ou notre compagnon nous quitte pour une femme plus jeune, ce qui n'arrange rien bien souvent. Enfin bon, c'est pas si facile, et pour éloigner ce sentiment un peu mélancolique, on a tendance à s'activer, puis un autre jour on est très fatigué. Et il est vrai que la société demande toujours d'être jeune, belle, ferme, bronzée, et oui. Alors que pour les hommes, eux, ils ont le droit d'être bedonnants, chauves, par exemple, et oui, et même fatigués, ils ont beaucoup de succès. Une photo de mode avec un homme bedonnant, chauve et buriné, ça passe très bien avec une jeune blonde qui a des cheveux épais. Mais voyez l'inverse, à moins de s'appeler Marguerite Duras, on a très peu de chances de plaire. Bon, et oui, donc c'est vrai que les hommes, cette dépression érectile, elle les prend après, vers 65 ans, et elle les fait beaucoup souffrir. Cette perte phallique dans le registre de l'avoir chez l'homme, chez la femme, c'est l'érogénéité de son corps tout entier qui était érigé comme un fleuron de sa féminité. Et la perte phallique, elle est dans le registre de l'être, de façon plus archaïque. Mais la femme, elle est amenée à s'ouvrir tout au long de sa vie. Elle a ses règles, elle est pénétrée dans l'acte sexuel, elle porte le bébé en elle, elle est habituée à s'ouvrir dans sa chair, à contenir. L'homme est beaucoup plus dans sa tête, il est hors de lui, son sexe est hors de lui, il pénètre, il s'active, il ramène l'argent à la maison, même si maintenant les femmes s'activent aussi. Mais il est en général plus fragile à 65 ans. Elle n'est pas drôle, cette dépression érectile. Ben bien sûr, c'est une débandade du moi tout entier qui dépasse l'organe lui-même. Et souvent, à 60 ans ou 65 ans, les hommes que je reçois, paradoxalement, ils sont dans une dépression qui demande un travail en réseau avec un psychiatre. La femme est plus solide. Une femme qui perd son époux, elle a un chagrin terrible. C'est à mon avis un des traumatismes les plus énormes de la vie, après la perte d'un enfant. Mais elle s'en sort peut-être mieux qu'un homme. Un homme seul, souvent, il n'est pas si bien que ça. Et je protège beaucoup cette sensibilité masculine, car les hommes à qui on a interdit de pleurer en disant « faut pas pleurer, un homme ça pleure pas », c'est stupide. Je pense que contacter la partie féminine quand on est un homme est très important, et contacter sa partie masculine quand on est une femme aussi, car on est tous animés d'une bisexualité psychique. Donc après ces périodes turbulentes quand même, de la ménopause et de l'andropause, si on n'a pas un événement qui vous tombe sur le coin de la figure, type un deuil ou quelque chose de grave pour les enfants, 60 ans, c'est une période assez tranquille si on veut. Oh, les affres de ces séismes sont passées, on renaît, on repart, on revit, tout va bien. Et puis, quand même, petit à petit, en sourdine, il y a des processus de transformation qui œuvrent, une sorte de période de latence, là, une pré-vieillesse, comme dit Benoît de Groult. C'est le lifting qu'on n'avoue pas, dit-elle, Benoît de Groult, à 60 ans. J'aime bien, dans La Touche Étoile, très beau livre. Il doit être à la librairie Corneille, celui-ci. Hein. Oh, ben, il est superbe, non mais c'est vrai. J'ai eu la chance de la rencontrer, j'ai fait un petit film avec elle pour La Cause des aînés 1. Elle était venue témoigner pour les créateurs qui viennent témoigner de leur parcours. Elle est formidable. À 90 ans, elle allait en vélo chez son éditeur. Rendez-vous compte, hein, dans Paris, hein. Après, il avait tellement peur pour le livre suivant, il lui a interdit de prendre le vélo. Bon, alors, à 60 ans, c'est une sorte de pré-vieillesse, donc, période de latence où des transformations à venir œuvrent en sourdine, on est en pleine forme, et puis, il y a une chose, c'est que à 65 ans, 60-65 ans, on est une génération de militants. Les boomers, génération pivot, comme ils disent dans la presse, avec les vieux parents à s'occuper parfois, et puis les jeunes enfants au chômage, les jeunes enfants, lapsus, désir. Non, les grands enfants qui sont parfois au chômage, et donc on est quand même très occupés, et on n'a pas envie de vieillir comme nos parents. Et on est des pionniers, puisqu'on est les premiers à pouvoir vivre si longtemps. Et c'est très important, parce que les gens de ma génération, ils militent beaucoup, ils inventent des nouveaux lieux de vie, des nouvelles façons de vieillir, et ils sont des éclaireurs de vie pour les plus jeunes, montrant autre chose que l'horizon d'une vieillesse décrépite, montrant aussi autre chose que le vieillir jeune, et je trouve que c'est plein d'espoir. Alors la sénescence, elle est de plus en plus longue, et elle ne se déroule pas de façon linéaire non plus, elle se déroule par cap, les 70 ans, l'âge qui commence par un 7. Parfois, ça fait peur. Le tournant des 80, il y a une certaine ascension jusqu'à 80 ans. D'ailleurs, pour 85% des vieux, ils vont plutôt bien. Bon, 80 ans, c'est vrai que c'est un tournant, il y a plus de fragilité, et puis on a encore beaucoup de temps devant soi, parce qu'entre 80 et 100 ans, car il y a de plus en plus de centenaires, il y a encore du temps. Mais là, il y a quand même la grande vieillesse. Le grand âge, aujourd'hui, c'est quand même plus de 80. Avant, on ne peut pas parler de grand âge. Alors, 85% des vieux vont bien, 10% d'une classe d'âge de plus de 75 ans sont dépendants, et donc le but, c'est quand même de détecter les fragilités avant qu'on soit dépendant. C'est donc de revoir la notion de prévention en la faisant partir dès la naissance, je dirais même dès la vie affective prénatale. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, il y a eu énormément de progrès de la médecine et de l'hygiène. Il n'y a plus de maladies infectieuses, mais il y a des maladies chroniques. Et donc, on a appris à vivre avec. Donc, ça demande de réviser les parcours de soins qui ne sont plus des parcours de santé, mais enfin, qui ne sont plus seulement des parcours de santé, parce qu'il y a aussi ceux qui vont moins bien dans mes pourcentages. Il s'agit de prévenir, de prendre soin et pas forcément de soigner. Et d'ailleurs, j'ai toujours pensé que la sécurité affective devait faire partie intégrante de la sécurité médicale et que soigner n'empêche pas de prendre soin et que la culture palliative n'est pas que la fin de vie, parce que palliatif, ça veut dire pallier au manque. Et le manque à être, il creuse drôlement quand on est en vulnérabilité. Et la culture palliative, je trouve qu'elle devrait être enseignée dès la fac de médecine et que tous les soignants, les médecins devraient en être imprégnés. Alors à partir de 65 ans, ce qui va faire rupture dans notre sentiment continu d'exister, c'est toute une série d'événements qui vont venir rompre ce sentiment d'être. Et face à ces ruptures avec notre vie d'avant, on doit bénéficier d'un environnement familial, amical, amoureux, dans le meilleur des cas. On a parlé cet après-midi des amours tardives, c'est important. Environnement social également, on doit bénéficier d'un environnement soutenant si on ne veut pas s'enliser mais rebondir. C'est toutes les préoccupations actuelles du gouvernement avec la loi d'adaptation de la société au vieillissement. Est-elle applicable? Qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il des problèmes économiques? Dans les questions tout à l'heure, on pourra en parler. Quels sont ces événements auxquels je fais allusion? Vous les connaissez tous. Je vais vous dire tout ce que vous savez. Alors le départ à la retraite, bien sûr. Le départ des enfants de la maison qui reviennent souvent, maintenant, puisqu'ils sont adultes de plus en plus tard et qui ne trouvent pas de travail, ce qui est un gros problème. Et ce qui nous fait très peur pour les années à venir. Beaucoup disent, mais nos petits-enfants ou nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont vivre? La perte des proches qui, plus on avance en âge, plus on perd ses proches et plus c'est difficile. Il arrive un moment où on n'a plus de personne avec qui parler de certaines choses. Les divorces tardifs, de plus en plus nombreux, parfois celui de nos enfants. La prise en charge des parents âgés, leur mort bien sûr, la maladie. Tout ça, c'est des traumatismes qui arrivent sur le coin de notre figure. L'hospitalisation, une étape très importante à gérer, c'est la sortie d'hôpital, une étape clé. L'entrée en institution. Ça, c'est très important que la famille puisse, comme vous le disiez, Nicolas, tout à l'heure, dire aux gens, on va te mettre en institution, viens, on va visiter le lieu, on va choisir, et non pas mentir à la personne en disant, on te met là pour quelques mois. Non, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots, bien sûr, c'est très important. Choisir l'entrée en institution, c'est primordial. Le déménagement tardif, qui est un traumatisme majeur. Vous voyez, il y en a énormément, finalement. Le veuvage, qui est évidemment... énorme aussi, c'est comme je disais tout à l'heure, une grosse turbulence. Donc tous ces événements-là vont faire que la renaissance de la sénescence, ça va être une renaissance douloureuse. Et si on parle de la dilatation du col de l'utérus pour l'accouchement, moi je parle de la dilatation du moi, le moi mis à rude épreuve, pour laisser passer celle ou celui qu'on était et accueillir celui ou celle qu'on devient. Et donc je vais essayer de vous donner des pistes, moi, pour bien vivre longtemps avec une qualité de vie. Mais avant, je voudrais reprendre certains chiffres quand même, alors que vous connaissez tous, puisque maintenant ils sont un peu publiés, mais j'ai essayé de rassembler les plus notables pour quand même se dire qu'on a quand même de la chance. C'est quand même une sacrée révolution, ça. On n'a jamais vécu si longtemps depuis l'aube de l'humanité. Alors, en 1900, l'espérance de vie à la naissance, 46 ans. En 2013, 85 ans pour les femmes, 79 pour les hommes, plus fragiles. À 60 ans, les femmes ont encore plus de 27 ans. J'aime bien ceux qui font les statistiques. 27,3, c'est précis. Les hommes, 22,7. En 2040, il y aura 10 millions de Français de plus de 75 ans. soit deux fois plus qu'en 2007. Et c'est énorme, sachant que la longévité des Français est parmi la plus élevée au monde. Ouais, on vieillit bien en France. Les plus de 60 ans représentent 31% de la population. Alors en 2010, 15 000 centenaires, dans 50 ans, 200 000 centenaires. Mais, cela ne veut pas dire, comme on l'entend souvent, que notre société vieillit. Hein, ça, c'est important. Car comme le rappelait Laurence Rossignol, ministre en charge des personnes âgées, de la famille et de l'autonomie, qui a parrainé ma cause des aînés 3 et qui est venue nous faire une belle allocution, le taux de natalité en France est le meilleur d'Europe. Donc, c'est une transition démographique. Bientôt, il y aura plus de vieux, enfin de retraités que d'actifs, en attendant que tout ça s'équilibre. Mais enfin, très vite, et dès maintenant, on est dans une société de tous les âges. C'est ça qui est important. C'est de dire qu'on est dans une société de tous les âges et pas une société vieille. Ce qui vieillit, c'est un certain nombre de personnes qui vieillissent et qui vivent plus longtemps. Mais il y a aussi des jeunes. Bon. Alors, en 2005, une fille sur deux avait toutes les chances d'être centenaire. Et la personne qui va vivre 150 ans est peut-être à Laval dans cette salle, puisque certains chercheurs disent qu'elle est déjà née. Alors, vivre longtemps, c'est une belle perspective. C'est quand même la perspective de vivre plein d'expériences, de se tromper, de rectifier le tir, d'apprendre quand même, d'apprendre ce qu'est la vie. De vivre longtemps avec les siens, de voir ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants grandir, de voir le monde changer. Des inventions, l'arrivée de l'ordi, l'arrivée des portables, l'arrivée de ceci, d'y participer, d'être acteur des transformations. Comment s'équiper pour nous adapter à cette transition démographique et à la transformation numérique qui ne vous aura pas échappé? On est numérisé complètement aujourd'hui. Alors c'est un progrès immense quand même de pouvoir équiper le territoire, équiper sa maison, car les chutes par exemple, je pense à ça, qui sont quand même un énorme facteur de risque. Il suffit d'un petit cheveu qui vient se mettre dans le mécanisme d'une vie, on tombe, alors qu'on allait très bien, c'est la chute et les escarres dont on a parlé cet après-midi, et quand on est invalidé, allongé, enfin c'est vraiment une calamité. Donc d'être équipé, équiper sa maison, équiper, et bon c'est très bien. Skyper, faire des mails, savoir être de son temps et ne plus dire « Ah, de mon temps ». Ben non, de mon temps, c'est maintenant. Donc c'est très bien ces nouvelles technologies à condition de savoir utiliser l'objet. Parce que si on est complètement connecté avec ce qu'ils appellent maintenant les storytelling, ils disent « Ah, maintenant, c'est bien, vous comprenez, les vieux, ils peuvent mettre les photos sur leur blog, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants, puis ils mettent tout ça en vitrine ». Et moi, je dis, c'est très bien, pourquoi pas, si ça fait plaisir. Mais il ne faut pas se leurrer. Si on n'a pas une vie intérieure, si on n'est pas ancré dans son corps avec la sensation de se sentir exister, si on n'a pas cette capacité de jouer et cette élasticité, on va être hors de soi, on va coller à l'injonction du vieillard actif, là, qui s'inscrit à tout, qui a une vie associative, qui fait de la rando, c'est très bien. Parce que l'isolement, c'est le fléau. Il faut aller vers les autres. Mais si on est avec une mauvaise utilisation de l'objet, on va vers une déshumanisation. Et moi, ça me fait mal. J'étais à la poste l'autre jour. On me dit, on va supprimer maintenant. Déjà, on a supprimé les dames au guichet. Il y a des distributeurs, il faut mettre des pièces. Ils ne marchent jamais. Maintenant, ils vont mettre que des cartes bleues. Bon, en plus. Bon. Donc, c'est tout connecté. Les déclarations d'impôts, vous avez vu, c'est connecté, c'est en ligne. On n'a plus là. On appelle, alors il y a eu des sketchs au Café Théâtre, on appelle un organisme pour avoir un renseignement. C'est bien d'avoir quelqu'un qui explique quand même. Alors on a un standard avec une voix d'hôtesse de l'air qui va vous faire des déclarations. On dirait qu'elle tient une sex shop avec une voix. Non mais c'est vrai, avec une voix extrêmement sensuelle, là, qu'elle va vous vendre des. Bon, enfin bref. Et donc en réalité, non mais où est la rencontre? Ce qui fait le bien vieillir, c'est aussi la vie d'un quartier. C'est aussi pouvoir sortir une fois par jour au moins et se dire qu'on va causer de choses. Alors, à Paris, c'est beaucoup plus difficile. Dans les villages, c'est beaucoup plus amical, beaucoup plus convivial. Je vous disais tout à l'heure, en visitant votre établissement, ce qui m'a ému, c'est que vous me disiez, il y a un tel qui a fait telle profession à Laval, et ce monsieur qui était vétérinaire, et ce monsieur qui était ceci. Bon. Et j'avais l'impression de dire, c'est comme si c'était le village de Laval, que sont-ils devenus? C'est pas qu'allons-nous faire de nous, le titre que vous avez parodié de Marie de Henzel, c'était Édouard de Henzel qui avait écrit avec sa maman, qu'allons-nous faire de nous, hein. Mais là, c'était que vont-ils devenir quelques années après? Et il y a cette convivialité de village dans cette maison que j'ai visitée. C'est agréable. On se rencontre au coin d'un couloir, on se parle. J'ai vu que c'était vivant. Voilà, c'était vivant. Mais c'est ça l'enjeu du bien vieillir. Si on est dans un monde connecté, bien sûr, la télémédecine, la téléassistance. On va chez le médecin, non. Prénom, date de naissance. Je me dis, mais quand est-ce qu'il va me regarder le blanc de l'œil? Quand est-ce qu'il va faire la clinique des odeurs? C'est peut-être parce que papa était médecin et que moi j'étais baignée dans la clinique quand j'étais petite, mais quand même, on n'a plus le palper, le toucher. La clinique, c'est le toucher. Charcot disait, la théorie, ça n'empêche pas d'exister. Oui? Bon, alors, il ne faut pas que je m'enflamme, sinon ça va mettre 3 heures. Bon, alors, je vais essayer de tenter maintenant un éclairage psychanalytique, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce que c'est la crise existentielle de la sénescence, hein, au fond? C'est que plus on avance en âge, plus on met nos pieds dans la trace de nos parents. Et tout l'enjeu, ça va être de faire pareil, mais différemment. Plus on avance en âge, moins la différence d'âge avec nos parents se voit. Et plus on se met à leur ressembler tout d'un coup. Et alors là, on est repropulsé dans une identification conflictuelle qui correspond complètement à ce qui se passait au moment de notre adolescence. Quand on était pris, pour les filles, dans une mère trésor, merveilleuse, inégalable, ou une mère poison, tu me saoules, qu'on jalousait et qu'on avait envie d'envoyer promener. Et au moment de la sénescence, mais au moment de l'adolescence, au moment de la parentalité naissante aussi, Œdipe fait une entrée en scène, remarquée, costumée différemment, avec des acteurs différents sur des scènes différentes. Au moment de la sénescence, à partir de 65-70 ans, et en grande vieillesse et en fin de vie, eh bien, cette identification pour les filles, pour leur mère, et les fils, pour leur père, elle va ressurgir. Et elle peut se reporter sur un soignant qui va être vécu comme une sorcière qui vient nous empoisonner, ou comme une merveilleuse mère qui va venir nous soigner. Il y a, si vous voulez, quand on avance en âge, une récapitulation, un retour en arrière. On reconstruit sa vie. On a des souvenirs qui viennent de la jeunesse, et à ce moment-là, on est repris dans des turbulences de l'Œdipe, et en même temps, on effectue une plongée en pleine mer, M-E-R-E, parce que le corps se transforme, l'image du corps bien sûr, le vécu sensoriel aussi, et il y a une peur tout d'un coup, une perte de repère, une perte d'intégrité corporelle. Et puis, plus le temps passe, plus on a l'impression qu'il va vite et plus on va lentement. Et à ce moment-là, en même temps qu'une sorte de tumulte d'origine oedipienne, on plonge dans ce que nous, on appelle l'archaïque. On est très près des fondations de notre être. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que tout ce qui transitait du corps de notre mère au nôtre quand on était bébé, dans la façon qu'elle avait, notre maman, des premiers temps, de nous porter, de nous bercer, de nous présenter l'objet, le sein ou autre objet, de nous laisser l'utiliser, qu'est-ce qu'on a construit? On a construit une sécurité de base. C'est le holding, Winnicott appelle le holding la façon de toucher, handling, de porter, object presenting, de présenter l'objet. Elle nous racontait à son insu, à travers des signifiants infraverbaux, puisqu'il était question de la musicalité de sa voix, du ton de sa voix, du rythme des phrases. Elle nous racontait comme une portée musicale une petite musique. Et l'enfant s'inscrit sur une portée musicale telle une note de musique plus ou moins euphonique, plus ou moins cacophonique. Il sent s'il a été désiré, si cette mère a fait ce bébé avec son papa, à elle, pour l'offrir à sa maman, bébé de l'Œdipe, si elle l'a fait avec cet homme à qui elle donne une place, le vrai papa, si elle l'a fait toute seule, symboliquement ou réellement. Il sent tout ça. Et qu'est-ce qu'il peut en faire, ce petit bébé? Eh bien, si le portage est suffisamment sécurisant, tout va bien. Mais si la maman est dépressive, occupée ailleurs, traversée par un deuil pendant sa grossesse ou les premiers mois, si un deuil non fait dans une génération antérieure traverse les générations, il va capter simplement une cacophonie, une fausse note dans l'harmonie de la portée musicale. Et ce petit bébé, il passe par des trous d'air, des dépressions atmosphériques. Il ne peut pas les refouler. Pour refouler, il faut déjà être inscrit dans le temps et l'espace, il faut être plus grand. Il ne peut que les encrypter dans une sorte de mémoire du corps. Or, ce qui est intéressant quand on regarde le parcours d'une vie, c'est que cette crypte de la mémoire du corps, elle s'ouvre plusieurs fois dans notre vie. Elle s'ouvre notamment dans les étapes de turbulence où il y a transformation corporelle, questionnement existentiel, changement de rapport au corps et au temps. En période de sénescence, dans ces moments de rupture, et aussi en fin de vie, quand le temps qui reste s'amenuise, on est en pleine turbulence où il y a une ouverture de la crypte de la mémoire du corps. Et ainsi, des événements anciens, des traumatismes anciens, nous arrivent en pleine figure et ressurgissent. C'est ainsi que vous recevez un patient dont apparemment l'histoire paraissait toute belle, enfin, il n'y avait rien d'exceptionnel. Et tout d'un coup, il va vous répéter en litanie comme ça, ou soudain, il va être pris de chagrin, de pleurer, d'un bébé perdu, de quelque chose de très fort qui s'est passé chez sa mère. Et vous pouvez même lui dire, mais vous savez, vous avez été élevé comment au sein, on vous a raconté votre naissance. Il y a des choses qui se disent très, très tard dans la vie, sur les premiers temps de la vie. Et on s'aperçoit que tout ce qui transitait dans les premiers temps de la vie va ressurgir dans ces temps forts que je vous ai énumérés tout à l'heure, qui sont des temps d'après-coup de la vie. Et c'est pour ça que c'est des étapes du développement, parce que ça permet de résoudre parfois des conflits anciens. Si on ne les résout pas, ils œuvrent en sourdine, et il vaut mieux qu'ils occasionnent des larmes qui coulent dans un environnement porteur, plutôt qu'ils se transforment dans le canal d'une somatisation, voire d'une décompensation psychotique. C'est pour ça qu'une crise existentielle bruyante est à écouter, parce que c'est qu'il se passe quelque chose au niveau identitaire sur deux versants, un versant œdipien, qui est la partie émergée de l'iceberg, et un versant beaucoup plus profond, archaïque. C'est pour ça que c'est une clinique de la présence, du toucher parfois, de la régression, qui demande avant tout, que ce soit au soignant, que ce soit à l'auxiliaire de vie, à l'AVS, au psychanalyste, de prêter sa présence, d'écouter avec son corps tout entier et d'être là, juste être là. Oui, on peut entamer un travail analytique à 70 ans, à 80 ans. On peut faire une escale chez un psychanalyste. Oui, il y a une clinique de la fin de vie comme Michel de Musan dans le travail du Trépas, article culte des années 70-73, avait écrit à l'époque où on se souciait de la clinique de la fin de vie et qu'on ne mettait pas l'euthanasie comme la solution finale. Et quand je vous disais tout à l'heure que la dernière étape proche de l'accomplissement, si elle n'est pas édulcorée ou squeezée, oui, ça peut être, oui, c'est dur, c'est tragique de mourir, mais il y a un accompagnement, et je vous invite à lire Catherine Dolto, aptonomiste, aptopsychothérapeute, dans le magnifique chapitre qu'elle nous offre dans le livre à sortir en octobre, où elle nous a parlé de ce fil rouge entre le franchissement du premier seuil qui est la naissance. Et vous voyez, je fais ce geste puisque les aptonomistes, certains d'entre vous connaissent l'aptonomie périnatale, ce toucher affectif créé par Franz Wellmann, science de l'affectivité, dit-il, qui apprend à porter, à toucher, qui apprend au papa à sentir dans le ventre de la maman le bébé qui bouge. Eh bien, Dolto fait le parallélisme entre ce franchissement du premier seuil, c'est-à-dire la venue au monde, et le franchissement du dernier seuil. Et elle fait un travail clinique remarquable. Voilà, donc maintenant que je vous ai parlé de cette crypte de la mémoire du corps, ce que je ne vous ai pas dit, bien sûr, c'est le bilan de la mi-vie, c'était quel sens à ma vie, aurais-je le temps de tout faire? Évidemment, quand on avance en âge, comme disait le grand Jean d'Ormesson, c'est qu'ai-je donc fait? Il titrait ainsi un de ses avant-derniers livres, quel sens a eu ma vie? Ai-je été quelqu'un de bien? Un bon mari, une bonne épouse, un bon enfant pour mes parents? On se met à se dire, qu'est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'ai des regrets? Et donc, on récapitule et on reconstruit à la lumière du présent. On fait un bilan rétroactif, surtout quand le corps fout le camp. Quand le corps fout le camp, il doit être aussi à la librairie Corneille, c'est le titre d'un ouvrage collectif dirigé par Christian Galopin, qui est très beau aussi. Quand le corps fout le camp, c'est pas drôle, mais il y a encore de la vie. Et il y a encore des possibilités de se dire qu'on ne perd pas sa dignité comme un capitaine qui perdrait ses galons, et que pour moi, mourir dans la dignité, on peut mourir dans la dignité en étant handicapé, en n'ayant pas toute sa tête, et qu'il y a aussi une clinique à laquelle je suis attentive, c'est celle des maladies dites troubles cognitifs, dites maladies dégénératives. Dégénératives, c'est vilain, ce mot. Alors qu'en fait, il y a vraiment une vraie clinique d'accompagnement, et je vais vous donner un exemple, j'avais dit tout à l'heure que je raconterais une histoire, c'est l'histoire de Bruno Sarri, qui est art-thérapeute, qui animait un atelier mémoire, et il avait fait dessiner, c'était de l'art-thérapie, il avait fait dessiner des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, et il y en a une dame qui n'avait rien dessiné du tout. Alors il lui dit, mais vous n'avez pas envie de dessiner, madame, votre feuille est blanche. Elle lui dit, mais si, monsieur, j'ai dessiné des oiseaux, ils se sont envolés avant que vous arriviez. Et oui, seulement seules les personnes qui sont dans cette sphère-là, c'est-à-dire dans le réel, comme on dit nous les psychanalystes, Jacques Lacan parlait du réel, du symbolique et de l'imaginaire. Quand le symbolique, on n'y a plus accès, l'imaginaire non plus, et que le moi se détricote, on est en prise directe avec le réel. Ce verre, si c'était un verre de vin, il y a des gens qui ne savent plus que c'est du vin. Ils ne savent pas le nommer. Ils le sentent, ils le touchent, ils sentent le poids du verre, la consistance, ils l'approchent, ils le boivent. Et ils s'aperçoivent que c'est de l'eau. Et ils se disent, ils aiment sentir le goût du vin. Voyez-vous ? Ils sont dans le réel, même s'ils ne savent pas que c'est du vin. Les enfants ont l'art de poétiser. La dame avec les oiseaux. Les enfants, ils disent, là, on aurait dit que c'était la maison, et là, on aurait dit que c'était des oiseaux. Ils inventent, ils jouent. Ils sont dans cet espace que Winnicott appelait espace transitionnel. Ni tout à fait dedans, ni tout à fait dehors. L'enjeu du bien vieillir, c'est de cultiver cet espace intérieur, cet espace qui permet d'être dans l'allant devenant pour ne pas coller aux choses et pouvoir s'y ressourcer. Winnicott disait que cet espace-là, il aurait le mérite simplement d'être une aire de repos et que la tâche interminable d'une vie, c'était de maintenir ensemble reliées réalité intérieure et réalité extérieure. La réalité extérieure, elle nous apporte plein de belles choses et plein de traumatismes aussi. La réalité intérieure aussi, puisqu'il y a un retour du refoulé extrêmement violent. Donc on doit pouvoir négocier. Et vous tous, soignants, s'il y en a dans cette salle, et je pense qu'il y en a, c'est de pouvoir maintenir, d'être garant que nos patients, ils aient toujours cet espace d'élasticité. Jules Michelet disait « Il faut avancer en âge pour conquérir et dépasser sa jeunesse, pour la délivrer de ses entraves, pour vivre selon son initial élan. » C'est vrai qu'il faut du temps pour, je dirais, être libéré des entraves et retrouver le fil rouge, le fil conducteur de sa vie. Et parfois, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs vies dans la vie. On se dirait, par exemple, mes années de 50 ans, j'ai eu tel et tel traumatisme, mais j'ai intégré. Et on ressaisit à tout moment le fil conducteur de sa vie. Et tout ce travail de désidentification successive, ça demande de lâcher les images, on correspond plus aux images qu'on était. Le lâcher du paraître nous emmène dans l'être. Or, c'est ça qui est intéressant quand on avance en âge, c'est pour ça que vieillir, c'est grandir. On prend une leçon de vie. On s'aperçoit que quand on était jeune, on courait après je ne sais quoi, le pouvoir. C'est ça la quête phallique du pouvoir. Et tout d'un coup, on se rend compte que la vie, c'est regarder un coucher de soleil, être là, rencontrer des gens, vivre des premières fois, oser entamer des choses nouvelles, et on ne peut pas le faire seul. Et pour ça, il faut absolument avoir ces tuteurs de résilience. Tout le monde n'est pas les gens que j'ai écrits là, ceux que j'admire évidemment. J'ai cité Stéphane Hessel, quel bonhomme. Je l'avais rencontré pour la cause des aînés 2, un mois avant sa mort, et on avait diffusé le court-métrage. Il disait que lui qui avait été résistant, tout ça, qu'il fallait transformer les traumatismes en une énergie presque miraculeuse. C'est ce qu'il a fait jusqu'à la fin. C'était un grand, grand bonhomme, impressionnant. Michel Serres, Hugo Frey, dans son genre quand même, il n'est pas tout jeune. Et Gisèle Casadesus, il a 100 ans. Je crois même plus. Bon, vous allez me dire, on n'est pas tous Aznavour, Michel Serres et Stéphane Hessel, bien sûr. Mais la créativité, elle peut être aussi autre chose que de... Ce sont des génies, enfin des génies, des grands créateurs. Mais elle peut être aussi d'être créateur de sa propre vie. Alors, je pense que les enjeux pour bien vieillir, c'est de lutter contre le racisme anti-âge. Ça, c'est très important. De ne plus dire un Alzheimer. On n'est pas une grippe ou un rhume. Pourquoi on serait un Alzheimer ? On est monsieur ou madame un tel touché par cette foutue maladie. Donc il faut faire attention au vocabulaire. Lutter contre l'isolement, ben oui, bien sûr. C'est très important, le travail associatif quand même. Il y a des associations qui font un travail merveilleux, surtout en France où il y en a beaucoup. Alors ça demande tout ça, une révolution. J'allais dire, bon, bien soigner ses temps, bien se nourrir, ben oui, c'est important. Et ses pieds aussi, parce que les pieds, le poids du corps repose sur les pieds. C'est tout ça la prévention. Mais c'est aussi quand on va avoir des enfants, essayer de respecter les premiers temps d'une vie, les périodes de sevrage qui sont très très importantes pour construire l'espace transitionnel. La prévention, c'est tous les soignants de tous les âges qui doivent se rencontrer et travailler ensemble. Vous avez employé le mot décloisonner, madame, quand vous m'avez présenté. Oui, je pense qu'il faut décloisonner les cliniciens de tous les âges pour qu'ils se rencontrent. Je pense qu'il faut que les ministères travaillent ensemble, parce que c'est l'habitat, la culture, la santé, la famille, l'urbanisme et les transports qui sont concernés. Ce n'est pas les mêmes ministres qui font tout ça. Il faut qu'ils se rencontrent. Les associations, il faut qu'elles se rencontrent. Donc le combat, il est politique, économique, et il y a actuellement un grand combat pour tout cela. Depuis la canicule de 2003, il y a eu beaucoup de progrès de fait quand même, il y a eu beaucoup de choses de faites, mais il y a encore énormément à faire, et c'est chacun de notre place, parce qu'on a tous ou des parents, ou on est amené à vieillir, ou on est déjà vieux, et on doit tous, pour être animés d'une énergie agonique, comme dit Roger Dadoun, on doit être agonique, ça veut dire pour lui le combat, ago c'est le jeu, le combat, et c'est une énergie agonique si on veut avoir une ardeur, une vaillance, et se dépasser tous les jours. On se lève, on n'a pas envie, on a mal partout, c'est vrai, au bout d'un certain temps. On a de l'arthrose, on est beaucoup moins souple. La sexualité change. Bon, la sexualité de 50, 60, 80 ans, quand on a la chance d'en avoir une, elle n'est pas comme à 20 ans. Il y a un dernier livre de Marie de Henzel, d'ailleurs, qui vient de sortir là-dessus, sur la sexualité des personnes âgées. Et il faut pouvoir s'adapter à tout ça, et se dire que la vulnérabilité, c'est la vie. Or, être vieux, ça apprend à être vulnérable. On est beaucoup plus touché par les choses, on pleure plus facilement. Mais être plus vulnérable, c'est pas être plus fragile, c'est être plus vivant. Quand on est blindé, qu'on ne sent rien, on croit qu'on est fort quand on est blindé. Pas du tout. La force d'un être humain, c'est d'avoir le courage d'enlever son blindage. Or, les coups durs, la vieillesse, ça fait sauter le blindage. Et c'est là qu'on s'ouvre comme une fleur qui s'épanouit. Et c'est là qu'on voit la valeur d'un être quand finalement il n'a plus les attitudes de prestance. Alors j'avais une belle citation de Jacqueline de Romilly, 93 ans, qui écrit ceci, avant de mourir, puisque malheureusement elle n'est plus là. « Avec l'âge, on peut quitter son petit moi un peu vain et s'élever vers la sagesse, disait-elle, vers l'humanité entière. Il n'y a que le grand âge qui permette le mépris du succès et des honneurs. » Oui, mais tout le monde n'est pas comme ça. Jean Dormesson, il aime bien les honneurs. Hein. Il y a des vieux qui aiment bien les honneurs aussi, parce que le narcissisme secondaire, c'est-à-dire le paraître, se faire beau, plaire, ça peut être utile si on est avec l'espace de jeu, si on ne s'y croit pas, si on ne s'identifie pas à un jeune homme quand on a 80 ans. C'est très chouette de plaire aux femmes, d'avoir de beaux yeux. Il est beau, Dormesson. Bon, c'est vrai, enfin, moi je le trouve beau, mais il est vieux pourtant, il est buriné, mais il est séduisant, il est vivant, il est cabotin, c'est vrai, mais il est tellement classe. Bon, et en même temps, si on ne s'y croit pas, si on a un espace intérieur et qu'on sait que ce petit moi c'est un jeu, alors on donne raison à Jacqueline de Romilly, vous voyez, c'est ça qui est beau. Alors, les enjeux pour bien vieillir, il y a aussi autre chose, c'est le manque de coordination. Et là, je vous renvoie à un chapitre écrit par Annie de Vivi, présidente d'Age Village, et je vous invite à cliquer sur Age Village, www.agevillage.com. C'est le premier site que vous connaissez, pour beaucoup d'entre vous, le premier site internet, média internet, pour les personnes âgées. Chaque semaine, vous avez tous les décrets, politiques qui sont passées, tous les colloques dans toute la France, tous les scandales dévoilés, toutes les avancées, tout ce qui se passe un peu partout en France, et l'édito choc de cette militante qui est née dans une maison de retraite. Elle a été élevée dans une maison de retraite parce que sa maman y travaillait. Et donc, cette femme-là, c'est une combattante, battante, qui a écrit un chapitre, Une société pour tous les âges, où elle décrypte extrêmement bien dans L'avancée en âge, un art de vivre, quels sont les hiatus de la prise en charge en France. Par exemple, elle nous explique qu'une personne handicapée avant 60 ans, elle bénéficie de l'APA. Après 60 ans, elle est dépendante. Avant 60 ans, elle bénéficie d'une allocation. Elle ne l'a plus après 60 ans. Elle montre comment les choses changent à partir de 60 ans. Elle dénonce la fragmentation des prises en charge, notamment des fameuses grilles d'évaluation normative qui fait que les vieux sont sans arrêt évalués et réévalués et réévalués. Au lieu qu'il y ait une grille, guichet unique de prise en charge qui permettrait de gagner du temps. Et les familles, quand elles sont démunies, nous, on est dans le réseau, on connaît tout ça. Mais les familles démunies, qui sont dans l'urgence, quand une personne va être en fin de vie, qui ne sait pas où aller, qui ne sait pas quelle maison choisir, qui ne sait pas à qui s'adresser pour faire la paperasserie, tout ça. Il faut qu'elles sachent qu'on peut aller vers un clic. Ben, un clic, elles ne savent pas ce que c'est un clic. Ce n'est pas forcément dans le grand public. Déjà, la loi Leonetti, elle n'est pas connue du grand public. Alors, les clics, les mayas, les formules de répit, tout ça, c'est bien quand on est dans le réseau. C'est pour ça que des sites comme H Village sont faits, c'est pour permettre aux personnes de s'orienter, justement. Il y a, par exemple, toutes les maisons de retraite recensées, leurs descriptifs, etc. Donc, les chutes, les décompensations, l'isolement, l'épuisement des aidants familiaux, le burn-out des soignants, la formation des soignants, tout ça, ce sont des combats dont vous entendez parler, mais c'est très important de pouvoir faire évoluer les pratiques, savoir que dans un établissement, on peut faire venir une socio-esthéticienne. Voilà, une socio-esthéticienne qui a toutes les compétences d'une esthéticienne, mais qui sait aussi toucher, notamment pour les maladies d'Alzheimer, où il y a des massages du visage avec des résurgences émotionnelles magnifiques. Je vous invite à taper sur Google sur une fontaine en Italie. C'est un film magnifique. Vous voyez une socio-esthéticienne qui prodigue un soin à une dame qui a la maladie d'Alzheimer et qui se souvient soudain, en se faisant pétrir le visage, que quand elle était plus jeune, elle a connu une fontaine en Italie. C'est très, très émouvant. Voilà, donc c'est toute cette clinique de la sénescence, qui est la clinique de la vie, parce que comme disait Bergson, vivre c'est vieillir et vieillir c'est vivre. C'est toute cette clinique-là qui m'intéresse beaucoup. Et voilà, il y a énormément de choses que je pourrais encore vous dire sur les décrets politiques et si vous voulez les prises en charge, si vous me posez des questions. Je voudrais peut-être terminer sur une chose, c'est que Freud, quand il a terminé son œuvre, il avait cité Goethe en disant « ce que tes aïeux t'ont laissé en héritage, pour te l'approprier, tu dois le conquérir ». On n'a pas trop d'une vie pour s'approprier les choses. Et s'approprier, ça a été dit tout à l'heure en introduction, s'approprier sa vie pour la conquérir, ou une vie pour se mettre au monde, autre titre d'un livre de Marie de Henzel d'ailleurs. On n'a pas trop d'une vie pour se mettre au monde et pour s'approprier ce que nos aïeux nous ont laissé en héritage. Et puis on transmet ensuite, on laisse des traces. C'est d'ailleurs une des préoccupations. Que restera-t-il de moi ? Je vous remercie de m'avoir écoutée.